16h44 minutes dans le Point de Max à Boulevard 102.1 et on passe d'un Éric à un autre, Éric Duhem à Éric Gingras, président de la SCSQ. Monsieur Gingras, bonjour.
Bonjour à vous.
Vous avez rencontré hier le ministre des Finances, Éric Girard, dans le cadre des consultations pré-budgétaires. Grossièrement, là, c'était quoi les demandes de la CSQ? Puis il y avait d'autres candidats dans le lot, d'autres syndicats, pardon, dans le lot aussi?
Oui, absolument. Écoutez, c'est quelque chose qu'on a l'occasion de faire annuellement là, dans les consultations pré-budgétaires. Là. Cette année, particularité, là, on sait toujours pas si le budget sera déposé ou pas là, au même moment, là, au moment habituel, à la fin mars. Donc ça, c'est une donnée qu'on attend, qu'il y aura des impacts pour nos réseaux, notamment le réseau de l'éducation. Mais essentiellement, le message qu'on est allé porter au ministre, c'est celui de trouver un équilibre entre, bien sûr, conscient que la population paie des impôts, paie des taxes, mais qu'aussi ces mêmes gens-là veulent des services, notamment des réseaux de l'éducation, de la santé, conscient de part et d'autre qu'il y a des choix à faire. Le problème, c'est que bien souvent, ben, ce qu'on tente de faire quand il manque de l'argent, c'est de couper dans le secteur public, de couper en éducation. Très rare là, que le ministre nous dit qu'il va couper dans les subventions aux entreprises. Au contraire, hein, il va souvent nous dire qu'il faut investir davantage pour l'économie. Donc, à la fin, c'est bien souvent les profs, le personnel de soutien, les professionnels au cégep, etc., qui font les frais. Donc, c'est ce message-là de proposer des choses pour être en mesure d'augmenter les finances et bien sûr de s'assurer que nos réseaux sont bien financés au Québec.
Vous demandez notamment là, à Québec de développer le réseau des CPE, de financer la transformation des garderies non subventionnées en centre de la petite enfance. Quel impact positif ça aurait, ça?
Bien, c'est qu'on on sait que le gouvernement travaille à créer des places, mais notamment en convertissant des centres privés en CPE, mais subventionnés, donc privés. Et bien souvent, ben, la pas du gain, c'est normal. Des entreprises qui font ça le font dans des endroits où ils sont assurés là, d'avoir une clientèle, etc. Et ça se fait au détriment des milieux qui sont plus défavorisés, des milieux où ce serait plus important d'en avoir. Alors, ça crée, vous savez, l'important dans les CPE, on a vu à travers les décennies, c'était pour créer une meilleure égalité des chances. Et là, on voit qu'on défait ça un peu en le faisant de cette façon-là. Lorsqu'on veut, c'est en mesure de créer des incitatifs pour que ces places-là soient faites dans des milieux qui sont non lucratifs pour vraiment s'assurer que le but, c'est d'avoir une place en garderie et non pas simplement de dire, ben, on va s'assurer là que la business fonctionne. C'est un peu cet équilibre-là, encore une fois, qu'il faut trouver. Pas complètement contre l'idée, mais s'assurer que on a toujours dit que le vaisseau amiral au Québec, c'était les CPE. C'était l'endroit où on atteignait la plus grande égalité des chances. Puis on souhaite que ça, bien, ça soit davantage développé.
La CSQ qui demande aussi au gouvernement d'instaurer une taxe de 30 cents par litre sur les boissons sucrées et édulcorées pour en réduire la consommation et améliorer la santé de la population tout en allouant les revenus générés à des programmes de prévention en santé. Quand j'ai lu ce point-là, Éric Gingras, ma réaction, ça a été mais de quoi il smile? En quoi c'est le rôle de la CSQ de demander ça?
Ben, c'est une bonne question à poser. Je vais tenter de vous y répondre parce que c'est sûr que quand la centrale dit hey, ayons plus de taxes, hein, vous allez me dire qu'est-ce qu'on fait là? Mais écoutez, l'important, c'est que présentement, il y a deux éléments. On a besoin de trouver des façons, parce qu'on le voit, là, on peine à financer les services. On peine à financer. On est obligé de procéder à des coupures parce que le budget, il balance pas. Fait que d'un côté, on peut dire, ben, écoutez, on va juste couper, mais à la fin, les gens veulent des services quand même. Après ça, si je vous dis qu'il fallait augmenter les impôts, vous allez me dire, ouais, mais là, la classe moyenne, etc. Alors, entre ça, il y a des éléments comme les boissons sucrées. Et ce que ça fait, puis vous savez qu'on représente aussi des gens en santé, infirmières d'hier, nanothérapeutes à la CSQ, ben eux, ils vont vous dire, écoutez, là, ça, c'est un effet intéressant pour s'assurer d'une meilleure santé de la population. Donc, une pierre, deux coups, exactement ce qu'on a fait avec la cigarette. On a taxé, bien sûr, c'est une façon à l'État de dire sur quelque chose qui est néfaste minimalement, on va financer une partie du réseau de la santé avec ces taxes-là. Ça va réduire la consommation. C'est le même message qui est envoyé avec la taxation. D'ailleurs, il y a d'autres provinces qui le font au Québec et il y a d'autres États dans le monde qui le font. Pourquoi pas nous?
Mais en quoi la CSQ en arrive à vraiment cette proposition-là en tant que telle? Je suis curieux d'en savoir un peu sur le processus qui nous a amené à « Hey, c'est drette ça qu'on va demander » parce que, tu sais, vos explications sont... C'est pas fou pantoute, là. Mais comment on est arrivé à « C'est ça qu'on va demander »
Bien, comme je vous dis, je pense clairement que on peut pas tout financer nos services avec l'argent qui est disponible, il en manque. Et après ça, ben, écoutez, on est bien conscient, comme organisation syndicale, quand je parle à mes membres qui sont touchés par les impôts, le prix du logement, les taxes, etc., il faut faire preuve, il faut penser à l'extérieur de la boîte, puis il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire qui va peut-être amener des gens. Écoutez, là, si moi je dis qu'on taxe les boissons sucrées, tu peux faire le choix quand même de boire de l'eau, là. Quand on décide des impôts, ben ça, c'est plus difficile à faire d'autres choix. Vous comprenez ce que je veux dire? Mmh. Alors, ce qu'on a tenté de faire, c'est de trouver un équilibre parce que moi, je représente du personnel, notamment en éducation, en santé, beaucoup dans le secteur public. Mais comme je l'ai dit, ce sont des citoyens aussi qui payent des taxes. Mais en même temps, c'est eux qui, après des décisions du gouvernement qui décident de couper, c'est eux qui se ramassent à aller au travail puis à pas avoir la collègue à côté parce que finalement, ils l'ont coupé puis il n'y a pas le service aux jeunes en psychologie, en TES, etc., technicienne en éducation spécialisée. Donc, moi, les membres que je représente me demandent de trouver un équilibre. Okay. Oui, il faut financer mon travail, la collègue à côté, pour que le jeune puisse réussir, mais en même temps, il faut que je sois capable de trouver cet équilibre-là. Puis, un autre exemple qu'on a proposé, c'est le fameux fonds des générations, hein, où on met, là, on peut mettre plus d'un milliard par année là-dedans. C'est bien. C'est pour protéger, justement, les prochaines générations, pour dire, on va pas s'endetter à vos dépens. Mais quand on peine à éduquer un jeune, on a parlé de place en CPE, hein, un jeune de 6 mois, 2 ans, ou dans le réseau scolaire, quand on peine à avoir des services pour les aider, ça aussi, c'est hypothéquer la future génération. Donc, on dit, marquons une pause de 3 ans sur le paiement au fonds des générations, puis on va être capable de continuer le financement. Parce que c'est vrai qu'il y a eu du financement au cours des dernières années, mais le pire des scénarios, ce serait d'arrêter. Alors, nous, ce qu'on tente de faire, c'est trouver cet équilibre-là. Parce que vous seriez le premier à me questionner davantage si je disais qu'il faut augmenter les taxes, la TPS, la TVQ, etc. Ouais. Vous me direz, là, vous êtes fou, M. Gingras. Alors, c'est cet équilibre-là qu'on tente de trouver. Pas facile, mais en même temps, le gouvernement a des choix politiques à faire aussi. Puis c'est pas un investissement des milliards, des milliards sur Northvolt, des choses comme ça, qu'on réussit à trouver cet équilibre-là, selon nous.
Vous proposez aussi d'augmenter le salaire minimum à 20 $ de l'heure. Ça viendrait pas faire mal à certaines PME au Québec?
Bien, c'est sûr, encore une fois, on est sur cet équilibre-là. Vous savez, on a demandé pendant plusieurs années 15 $ hein? Si on s'était parlé il y a à peu près une dizaine d'années, on vous aurait demandé 15 $ On est rendu à plus de 16 $ présentement. Donc, on veut tirer ça vers le haut. Alors, on demande 20. Écoutez, si on réussit à le faire en 3 ans, je vais pas chialer. Mais c'est clair qu'on a besoin avec le coût des logements. Beaucoup de gens nous disent que ouais, c'est des jobs à temps partiel. Ouais, mais souvent, là, aujourd'hui, les gens ont besoin de 2 emplois. Et ils vont la faire, ce job-là, à temps partiel. Donc, pourquoi pas être en mesure de faire cet effort-là que déjà des PME, vous le nommez, pour aller chercher des employés, pour aller chercher de la main-d'œuvre, augmente au-delà du salaire minimum pour être concurrentiel. Donc, encore une fois, on est dans l'équilibre. Si le ministre du Travail, le ministre des Finances nous disait de le faire en 2 ans, 3 ans, ben, comme je vous dis, le but, c'est de tendre vers ça. Ce n'est pas de dire aujourd'hui nécessairement, mais écoutez, je pense qu'avec, quand on regarde le coût, quand on regarde les enjeux de logement, je le répète, ben, c'est clair qu'il faut travailler dans ce sens-là pour permettre qu'il y ait moins d'itinérance, moins de sans-abri, parce que maintenant, là, on sait que c'est plus ça peut affecter monsieur, madame, tout le monde.
Mais vous êtes conscient quand même que ça peut avoir un effet néfaste sur certaines PME. Ça va avec, oui, il y a du positif, mais ça peut tuer des PME.
Bien, sans dire les tuer, c'est clair que ça peut avoir un impact, mais comme je vous dis, il faut regarder globalement au Québec, là, où est-ce qu'on est. Puis je pense que l'argument, certains arguments que je vous ai nommés, mais en même temps, encore une fois, l'équilibre. Si les PME nous disaient, ben non, mais peut-être dans 3 ans, toujours capable de parler, là, plutôt que de simplement dire non, c'est inacceptable. Mais après ça, il y a quand même des enjeux dans la société comme on les voit présentement.
Éric Gingras, président de la CSQ, toujours un plaisir. Merci.
Un plaisir. Bonne journée à vous.
Salut, bonne journée, chef. Pendant notre discussion avec M. Gingras, les Canadiennes qui ont remporté l'or en patinage de vitesse, là, l'épreuve de poursuite par équipe. Donc, on est en train de les voir à la télévision. Fièrement porter le drapeau. Et c'est l'extase. Fait que autre médaille d'or pour le Canada. Puis une tabarouette de chance qu'on a le patinage de vitesse. Parce que sinon, la récolte serait assez maigre, merci, cette année. Mais très cool de voir les Canadiennes présentement. Et puis dans le lot, il y a, si je ne m'abuse, une Québécoise, Valérie Maltais, qui fait partie des Canadiennes en question. Fait que good job, girls! Belle médaille pour nos Canadiennes. D'ailleurs, on va surveiller là, dans les prochaines minutes. On va continuer de surveiller, en fait, le match qui s'est amorcé entre la Tchéquie et le Danemark parce que c'est le gagnant de ce match-là qui va affronter le Canada en quart de finale. Ça, c'est pour ce qui est du hockey, normalement. Là, la Tchéquie qui devrait ne pas trop avoir de misère avec ça. Dans les prochaines minutes, Audrey Pinchot s'en vient pour l'Open Mic à Boulevard. Il est 10h55.